Il y a quelques absents, il est 19h, on va commencer l'appel avec Jean-Jacques Gourdon et puis il y a sûrement des retardataires qui arriveront en cours de route. Jean-Jacques, qui accepte d'être secrétaire de séance, je te laisse la parole.
Merci Monsieur le maire. Monsieur Charles Daillot, Monsieur Hervé Bayard, Madame Marie-Christine Bourdieu, Monsieur Farid Eba, Madame Eliane D'Arteron, Madame Catherine Piquet. Monsieur Gilles Chauvin. Présent. Madame Geneviève Dariussec. Présent. Monsieur Jean-Marie Badby. Présent. Madame Chantal Plancheneau. Présent. Madame Janine Lamaison, absente, donne pouvoir à Monsieur Charles Daillot. Monsieur Bruno Ruffia. Présent. Madame Pascale Horry, absente, donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie Badby. Monsieur Philippe Hérault. Madame Marina Bancon. Présent. Madame Marie-Christine Arambat. Monsieur Pierre Merlet-Bonan, absent, donne pouvoir à Monsieur Bruno Ruffia, Monsieur Jean-Jacques Gourdon, Madame Nathalie Gass, Madame Marie-Pierre Gazot, absente, donne pouvoir à Madame Eliane D'Arteron, Monsieur Hicham Lamsika, présent. Madame Claudie Breck, présent. Monsieur Philippe de Marnix, présent. Monsieur Christophe Ourcade, présent. Monsieur Mathieu Hara, Monsieur Mathis Capdeville, Madame Delphine Leblanc, absente, donne le pouvoir à Monsieur Philippe de Marnix. Madame Nathalie Garcia. Monsieur Jean-Baptiste Savary, absent, donne le pouvoir à Monsieur Frédéric Dutin. Madame Céline Piau, absente, donne le pouvoir à Monsieur Alain Bachet. Monsieur Alain Bachet. Madame Françoise Cavani, absente, donne le pouvoir à Madame Françoise Latrabe. Monsieur Frédéric Dutin. Madame Françoise Latrabe. Monsieur Benoît Pierrine.
Merci, Monsieur Gourdon. Je vous propose de prendre connaissance avant de rentrer dans les délibérations.
Monsieur le maire, si vous le permettez, j'ai un mot à vous dire de la part de notre collègue Céline Piau.
D'accord, allez-y.
Bon, très bien. Ça a trait au dernier conseil municipal que nous avons eu. Donc je vais lire les écrits qu'elle nous a laissés, même si j'entends déjà un élu annoncer que ce que je peux bien dire, on s'en fout. Je tiens tout de même à vous expliquer pourquoi je ne peux assister ce soir à la séance du conseil municipal de Mont-de-Marsan. En effet, je suis à Montpellier pour raisons professionnelles. Je participe au colloque organisé par l'université Paul Valéry à Montpellier 3, ayant pour thème la revendication des minorités régionales en France depuis 1945, en Occitanie et ailleurs. Un thème qui ne peut qu'avoir des résonances dans notre commune. Être minoritaire ne signifie pas que l'on pense mériter, que l'on s'en fout. Bon conseil à toutes et tous. Signé Céline Piau.
Merci. Allez, sur la partie, donc il n'y a pas de compte-rendu du PV de la fois d'avant, parce qu'il y a un petit délai pour le taper, on l'aura la prochaine fois, on en aura deux pour le prix d'un. Mais par contre, il y a un compte-rendu des décisions que j'ai été amené à prendre entre le 10 octobre et le 17 novembre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça demande des... Je vais essayer de répondre à des questions si vous en aviez, Monsieur Dutin.
Oui, bonsoir. La 2023 10-227, je voudrais savoir le coût, s'il vous plaît.
Le
coût.
Donc là, on est sur le transfert des collections permanentes du musée, c'est
ouais.
Ça
je vais, Est-ce qu'on a un chiffrage?
Je vais passer la parole à Philippe de Marnix.
Oui. Merci, monsieur le maire. Mais il me semble que dans le montant des deux lots, il y a deux lots, un lot à hauteur de 127 000 euros et un deuxième lot à hauteur de 222 000 euros. C'est précisé dans les documents annexes. Donc vous avez plus connaissance.
D'accord. Ok.
D'autres, allez-y.
Et donc la 228, alors, sur la désignation d'un avocat dans le cadre d'une requête déposée par la SCI MMBCM, la SCI Le Divan, monsieur et madame Gaille, etc., et le syndicat des copropriétaires pour l'immeuble de la rue Dominique de Gourgues. Est-ce qu'on pouvait avoir des précisions, s'il vous plaît?
Alors, vous l'avez le détail de la décision ou pas? Je ne sais pas si
non.
Vous l'avez. Bon, je ne sais pas si... Je peux vous la donner. Hein. Donc, en fait, c'est une requête déposée par la SCI. Alors, je vais vous la lire, hein, ce sera plus simple. Je passe sur les détails un peu techniques. Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25, chargeant le maire des délégations prévues à l'article précité du Code général des collectivités territoriales, l'autorisant notamment à intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune, c'est bien. En fait, il y a une requête qui a été déposée par une SCI, par la SCI MMBSM, la SCI Le Divan et Madame Gaille, ainsi que le syndicat des propriétaires de l'immeuble du 5 rue Dominique de Gourgues. En fait, il s'agit d'un litige suite à un permis de construire que nous avons délivré par la ville de Mont-de-Marsan pour... alors, c'est Monsieur D'Andrea, mais le nom de la SCI, c'est pas lui en nom propre, hein, c'est sa SCI. Donc, par rapport à des travaux qui sont à l'arrière, voilà. Donc... je vais vous donner un petit peu plus de détails. Ouais, c'est bon. Donc le 3 mai 2023, la commune a accordé un arrêté de permis de construire à M. D'Andrea, enfin à sa société RDB. C'est au 1 rue Dominique de Gourgues, mais enfin c'est dans la continuité. Pour l'extension d'un logement, l'aménagement d'une terrasse et une modification d'ouverture et la démolition de la véranda. D'abord, il y a eu un recours gracieux déposé le 1er juin en mairie par les consorts, donc les trois structures que je vous ai données, donc la SCI MMBSM, le Divan et le syndicat des copropriétaires du 5 rue Dominique de Gourgues, qui ont demandé l'annulation de cet arrêté de permis. Les requérants sont des voisins immédiats du projet qui pose problème pour eux. La SCI MMBSM et Monsieur et Madame Gaille sont propriétaires de locaux professionnels et d'habitations au sein de l'immeuble en copropriété du numéro 5 rue Dominique de Gourgues. La SCI Le Divan est propriétaire de l'immeuble 5 place Charles de Gaulle. Il s'agit d'immeubles anciens dont la partie arrière est constituée d'un jardin et face à la rivière, à la 12, hein, en contrebas. Suite à une décision implicite de rejet née le 1er août 2023, les requérants ont saisi le juge d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que de l'arrêté de permis de construire. Donc, le recours n'ayant pas abouti, ils saisissent le juge pour ça. Les requérants soutiennent notamment que le projet litigieux, je ne rentre pas dans le détail, hein, est d'une part de nature à affecter les conditions d'occupation et de jouissance de leur propriété en créant des vues directes et des nuisances de vue sur leur propriété. Et ceux-ci s'inquiètent également des risques induits par la démolition et la construction projetée sur la stabilité de leur immeuble. Ils avancent par ailleurs l'incompétence du signataire de l'arrêté de permis de construire, une insuffisance de la notice architecturale attendue en application du Code de l'urbanisme, ainsi que les diverses violations de PLUI de Mont-de-Marsan agglomération. Voilà ce qui est les motifs de leur procès. Et nous allons contracter avec le cabinet Cambeau, spécialisé dans le droit de l'urbanisme, qui a été sollicité à des fins de défendre les intérêts de la commune dans le cadre de ce dossier. Voilà. Notre direction, Jaffer Rudéric, après, a plus de détails et se tient par la suite à votre disposition s'il y a besoin de plus d'informations.
Pardon, monsieur le maire. En fait, il conteste le permis de construire, mais parce qu'il y a un usage particulier, c'est de l'habitation, quel est le sujet? C'est ça que je ne comprends pas. Ouais.
Vas-y.
D'accord. En fait, ce sont des travaux qui ont été réalisés dans un lieu d'habitation. Et donc, ces travaux ont généré des remblais sur la terrasse en question. Et les voisins contestent notamment les travaux qui ont été effectués, et notamment ce remblai qui rehausse la terrasse. Et ils estiment que ça porte atteinte à leur intimité. Donc, on a délivré le permis en s'étant rapproché des services de la DDTM, puisque donc on est à proximité du cours d'eau. Notamment, il y avait une question de hauteur par rapport à de possibles inondations, notamment des niveaux de crue centennale. Et la DTM nous a donné son accord pour délivrer le permis. Donc, on l'a fait en toute légalité. Enfin, bon, après, on verra quel jugement sera rendu, mais... C'est pour ça qu'on n'a pas répondu favorablement au recours gracieux qui nous était demandé. On a rencontré également les voisins qui nous ont fait part de leur intention. On a engagé une discussion avec eux et puis ils sont allés jusqu'au bout de la démarche. Voilà.
D'accord, parce que c'était un commerce là avant.
Vas-y.
Pardon. Les travaux sont à l'arrière, mais c'était un commerce, le devant, la devanture. Le devant de l'immeuble.
À côté de l'établissement, le divan. Là.
C'est ça.
Et à côté, il y avait une réserve. Il y a un couloir qui va.
Il y a eu un fleuriste.
Tout à fait, tout à fait.
L'arrière,
et c'est à l'arrière, c'est à l'arrière. D'accord. C'est à l'arrière. Ça ne concerne pas le commerce hein, en question.
Juste une question supplémentaire sur ça. Donc, les travaux ont été réalisés en tout état de cause. Suite au permis qui a été accordé. Donc, si jamais le permis vient à être annulé, ça pose un problème par rapport aux travaux. On a un chiffrage des travaux qui avaient été réalisés ?
C'est pas des travaux engagés par la collectivité. Hein.
Non ? D'accord, oui. Mais enfin, je veux dire que si celui qui a engagé les travaux l'a fait en vertu d'un permis délivré par la collectivité, si le permis vient à être annulé, peut-être que celui qui a fait les travaux nous dira bonjour.
Alors, quoi qu'il en soit, on a délivré un permis en vérifiant bien toutes les règles qui étaient en vigueur, savoir si on respectait les règles d'urbanisme, bien sûr. Les règles, on les respecte. On s'est rapproché des autorités à partir du moment compétente, à partir du moment où on pouvait avoir un quelconque doute. Les autorités en question, c'est-à-dire la DDTM, nous ont dit que il était possible de délivrer le permis parce qu'on respectait les règles en question. Voilà. Après, les voisins ont la possibilité, en effet, d'engager une procédure, ce qu'ils font, pour contester la légalité du permis. Après, on verra quel sera le jugement qui sera rendu.
Ça peut être le cas dans n'importe quel permis de construire. Là, au départ, c'était l'extension d'un logement, l'aménagement d'une terrasse et d'une modification d'ouverture et démolition de la véranda sur l'arrière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport au relevé de décision ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? On considère que vous en avez pris connaissance, donc c'est bon pour ce point-là. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Donc nous avons les premières délibérations qui concernent le sport, et je passe la parole à Farid Eba.
Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit de délibérer sur la convention pluriannuelle d'objectifs et l'attribution d'une subvention de fonctionnement au Stade Montois Omnisports d'un montant de 620 000 euros et de 32 500 euros au titre de la mise à disposition de personnel. Alors, je crois que vous avez en annexe la convention pluriannuelle d'objectifs 2023-2026, ainsi que tous les rapports d'activité financiers pour l'exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Qui ont été présentés d'ailleurs lors de l'Assemblée générale du Stade Montois Omnisports le 24 novembre. Alors juste un mot sur le Stade Montois Omnisports, c'est le deuxième omnisport d'Aquitaine avec près de 6200 licenciés, 35 sections, dont de nombreuses évoluant à des niveaux nationaux, 852 bénévoles, 1 090 000 euros de valorisation en temps passé par les bénévoles, 55 salariés, un chiffre d'affaires de 5 417 000 euros, et un résultat très positif cette année avec 289 000 euros à peu près pour l'exercice 2022-2023. Alors le Stade Montois, c'est aussi un engagement fort sur le volet insertion avec Pré-Passeport qui permet à des jeunes éloignés des formations et de l'emploi de revenir sur le terrain professionnel avec à l'issue pour un bon nombre de des projets d'avenir. Le sport santé aussi, sur ordonnance, qui offre à des personnes atteintes de pathologie la possibilité de pratiquer une activité physique, adaptée bien sûr. Et le Stade Montois est depuis quelques années aussi organisme de formation dans les métiers du sport, avec son CFA et ses formations BPGEPS, APT, activité physique pour tous. Voilà, je vous remercie d'approuver cette délibération. Merci.
Merci. Est-ce que vous avez des prises de parole ou des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté, Monsieur Bachet.
Bon, on a eu le plaisir et le loisir d'échanger à la commission des finances sur cela. La presse et M. l'adjoint vient de nous faire un rapport. On a appris que par la presse il y avait un projet de construction d'un nouveau siège, ce qui est relativement bien. On fait le constat qu'on reste sur les mêmes sommes en termes de subventions annuelles. Comme je n'ai pas pu participer à l'Assemblée, je sais que beaucoup d'entre vous y étaient. On a eu une question à la Commission des finances, parce qu'on nous annonce effectivement un bénéfice à hauteur de 289 000 euros. Je voudrais simplement savoir, comme on va construire un nouveau siège, alors moi je vous pose une question, est-ce que la ville va financer ce nouveau siège? Si la ville ne finance pas ce nouveau siège, ça veut dire que c'est l'association, donc on peut se poser la question de savoir s'il faudrait... Je pose des questions que je ne sais pas, je ne suis pas à la commission, je n'ai pas participé à l'Assemblée, donc je souhaite qu'on soit informé. Et je voudrais savoir, parce que j'ai regardé rapidement, mais je n'ai pas réussi à mettre l'œil dessus, combien a été vendu l'ancien siège et s'il est bien dans... je vais pas... Voilà. Je ne me rappelle pas combien ça a été vendu. Et est-ce que dans le bilan financier, cet achat y figure? Donc, parce que si je dis comme ça les choses, si ça a été vendu 400 000 euros, qu'on a comme bénéfice de 289 000 euros, ça pose. Voilà, c'est pour ça qu'on pose la question. On pose la question de savoir si on ne devrait pas augmenter la subvention à ce club omnisport par rapport à ce qu'il veut faire et par rapport aux politiques qu'il développe, puisque je sais qu'il a rencontré le service de la région pour avoir des subventions au niveau de la formation, comme vient de dire monsieur l'adjoint à l'instant. Donc je pose toutes ces questions parce que je n'ai pas participé à l'Assemblée et je n'ai pas eu le loisir de lire de A jusqu'à Z toutes les délibérations.
Il parle dans le micro.
Le prix de l'immeuble, enfin des maisons, c'était 88 000 euros. Et puis on a donné une subvention de 40 000 euros, je crois, c'est ça ? 44 000 euros, voilà. Je crois que ça, c'est marqué après parce qu'on va déclasser, du domaine communal au domaine privé. Donc on va en parler après.
C'est pas ça. La question, c'est le siège.
Ah, pardon. Le siège, pardon. Le siège actuel a été vendu déjà depuis plus d'un an, je crois. Depuis plus d'un an, ils sont dans des bureaux vers les UT, je crois. Le siège, ouais, 350.
Non, je crois que c'est aux alentours de ça, et il y a également le fonds de commerce, puisqu'il y a une valeur immatérielle. Donc en fait, ouais. Alors en théorie, donc nous on s'est engagé à, vous l'avez compris, à vendre cette maison, on l'appelle ça la maison du gardien, dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que on peut penser que en attendant un peu sur le prix du marché, ça aurait pu partir un peu plus cher. Donc on s'est vraiment mis au minimum de ce qu'on peut faire avec les domaines, et on contribue à la moitié. Donc c'est une augmentation de la subvention pour qu'ils puissent envisager. Après, ils ont eu recours à un de leurs architectes, ils ont avancé. Je pense qu'ils sont en mesure de pouvoir avancer. Ils ont calculé leur coût en termes d'endettement. Je crois qu'ils ont des prêts qui tombent, etc. Il y a l'apport éventuel de là-bas. Donc c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est pas noté là également, c'est qu'on a facilement 20 ou 25 000 euros, faudra qu'on le mette d'ailleurs, qu'on distribue. Alors c'est par le biais de l'agglo, par le biais de la politique de la ville aussi, hein, puisqu'on a... notamment pratiquement 15 000 euros sur pré-passeport. Voilà. Donc, une augmentation de subvention. Ben là, on l'a fait pour cette fois-là, pour les aider un petit peu sur cette acquisition. Et après, ils sont en mesure de pouvoir faire face. Vous, Geneviève, vous vouliez intervenir.
Pour renseigner M. Vacher, je pense que le prix de vente du Stade Montois Omnisport sur la Place Panco s'élève à peu près à 250 000 euros et que effectivement le bilan de cette année comprend cette vente. Ce qu'il n'y a pas dans cette vente, c'est le fonds de commerce qui va arriver, mais qui doit être à hauteur de moins de 50 000, hein, c'est 30 000 ou quelque chose comme ça. Voilà. C'était pour vous dire. En fait, j'ai appris tout ça à l'Assemblée générale. Hein.
On a anticipé les choses et avec leur bonne gestion, ils sont en mesure de pouvoir mener à bien des travaux et éventuellement de souscrire un prêt. Est-ce qu'ils auront besoin d'un cautionnement ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Mais en termes de subvention directe, ça a été discuté. Et c'est dans ces conditions-là qu'on est tombé d'accord. Hein, donc une subvention aujourd'hui de 44 000 euros. Et ensuite, des choses sont des gens raisonnables. J'ai bien l'impression qu'ils vont phaser les choses. En matière de subvention, pour être complet, alors c'est dans tous les éléments que vous avez là. Mais ce que donne la... Sur le total subvention, ce que donne la mairie de Mont-de-Marsan, ils touchent à peu près 1 341 000 de subventions. Ils ont bien évidemment plus de recettes, ils ont 5 millions de recettes. Donc on voit qu'ils vont chercher des recettes par ailleurs, les adhésions, le sponsoring, etc. Mais sur 1 300 000 de subventions, pratiquement la moitié, c'est donc la mairie de Mont-de-Marsan, 46%. 9%, c'est le conseil régional. 11%, à peu près, c'est le conseil départemental. Et après, il y a les fédérations, et voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des voix contre?
Non, il y a une intervention, s'il vous plaît. Je voulais faire une intervention, enfin mon intervention annuelle sur ce que moi j'appelle la subvention à la louche, hein, qui est une spécialité locale. Mais en fait, il y a aussi le débat à la louche, visiblement, puisqu'on ne peut pas avoir de prix, si ce n'est des 250 000 euros ou 50 000, mais peut-être 30 000. Enfin bon. Ce qui se passe, c'est qu'on est très, très pointilleux à Mont-de-Marsan sur beaucoup, beaucoup et dans beaucoup de domaines. On ne l'est pas sur l'attribution des subventions. Je lis dans la convention, et j'imagine que tout le monde l'a lu, qu'à la signature de la présente convention, un prévisionnel budgétaire sur 3 exercices en tenant compte de la subvention sera fournie, ainsi qu'un document de synthèse des principales actions à venir sur l'année, un document détaillé des objectifs par section avec une répartition de l'emploi de cette subvention. Ça fait au moins 3 documents qui ne sont pas fournis. Alors évidemment, la réponse, je la connais. Hein. 35 sections, 6 000 licenciés, c'est toujours la même chose. Mais moi, je réclame, je dis pas qu'il ne faut pas donner de subvention au Stade Montois. Je dis pas que la louche est trop pleine ou trop vide, parce que peut-être qu'effectivement, cette subvention est trop faible. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun critère objectif pour l'attribution de cette subvention, et que ça dure d'année après année avec l'aval de tous.
Très bien. Monsieur Dutin.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur Pierrine. Évidemment, que tout le monde a lu la convention, moi le premier, que notre collectivité veuille avoir des comptes, oui, mais très sincèrement, je pense que...
C'est pas à moi que vous répondez, là, si ?
Si.
Non, parce qu'en fait, c'est pas une question, hein, et puis en plus, elle est surtout pas pour vous.
Bon, bah, alors je réponds pas, mais j'ai quand même le droit de parler.
Allez-y, monsieur.
Bon, donc, par rapport à ce que vous venez d'indiquer, moi, ce que je considère, effectivement, c'est que les retombées que la ville de Mont-de-Marsan attend... dont bénéficie la ville de Mont-de-Marsan par rapport effectivement à l'activité du Stade Montois Omnisports et de ses différentes sections, elle est incalculable. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut effectivement jeter l'argent par les fenêtres, on est tous d'accord, et là sur ça je vous rejoins. Mais par contre, effectivement, je rejoins aussi la préoccupation d'Alain Bachet. Il faut être très attentif à ce que peut nous demander ce grand club omnisport qui fait notre fierté. Et au-delà, parce que la fierté ne fait pas vivre, mais au-delà qui fédère un certain nombre de Montois, quel est le Montois autour de cette table qui n'est pas passé par une des sections, que ce soit en pratiquant, en éducateur, en bénévole, enfin, je veux dire. Et donc, à partir de là, effectivement, ménageons notre Stade Montois omnisport, et donc ménageons-les aussi de suspicions et de critiques. Et ce d'autant que j'ai eu le plaisir de participer à plusieurs assemblées générales de toutes les sections, d'une grande majorité, parce que pour y assister à toutes, il n'y a que Farid Eba, je l'en félicite, qui peut le faire. Mais de participer à un certain nombre d'assemblées générales des sections du Stade Montois, les sections sont bien tenues, elles sont bien gérées, il n'y a pas de gabegie financière, bien au contraire. Et donc, en conséquence de quoi, véritablement, je pense que ça ne posera pas de difficulté à ce que les chiffres soient fournis, en tout état de cause, en allant aux assemblées générales, et je vous invite à le faire, en en allant aux assemblées générales, on constate effectivement qu'il n'y a pas de difficultés particulières sur la majorité des sections. Certaines ont quelques difficultés, mais nous expliquent effectivement les conditions dans lesquelles elles pourront être apurées. Et donc, longue vie au jaune et noir.
Y a-t-il d'autres... Donc moi, Monsieur Dutin, tout pareil. Tout pareil. Alors oui, il n'y a pas le prévisionnel, mais il y a quand même une tartine de chiffres, d'éléments comptables. Si toutes les structures pouvaient nous amener autant d'éléments, ce serait bien. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Donc c'est la numéro 2. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Pas d'abstention, donc c'est voté à l'unanimité. La délibération suivante, Farid Eba.
Merci, Monsieur le maire. C'est une délibération qui concerne la désaffectation et le déclassement du domaine public communal d'un terrain bâti avenue Stade Mont-de-Marsan, mais c'est le futur siège. Alors, il s'agit de la parcelle cadastrée à elle, numéro 44, 2110 m², supportant un bâti ancien composé de deux logements et de garages, donnant directement sur le parking du stade André-Guy Boniface. Alors, vous avez en annexe la délibération, et puis vous avez, je crois, une esquisse du projet, et puis et la parcelle. Voilà. Merci.
Voilà, donc sachant qu'il faut le prendre comme une esquisse, parce que là aussi, ça passera aussi des échanges avec nos services techniques et autres. Est-ce que vous avez des questions ? C'est dans la continuité. Vas-y, si tu veux.
Je reviens sur la délibération juste avant. Je crois que le coût du nouveau siège, c'est autour de 500 000 euros, je crois. Donc si ils ont vendu 250 000, parce que je me souvenais plus trop du prix, puis ça ne me regarde pas trop, finalement.
Oui,
oui. Et après, ils feront un emprunt, sûrement.
Le prix qu'ils ont cédé leur siège, c'est pas forcément notre affaire. Hein. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. On va parler maintenant de la Société des courses et d'hippodromes. Je passe la parole à Marie-Christine Bourdieu.
Merci, Monsieur le maire. La ville de Mont-de-Marsan est propriétaire de l'hippodrome des Grands Pins, dont l'exploitation est assurée par la Société des courses de Mont-de-Marsan dans le cadre d'un bail emphytéotique. La Société des courses, association régie par la loi 1901, œuvre pour la promotion des sports équestres, développe son centre d'entraînement, accroît le rayonnement de l'hippodrome, notamment dans le cadre de retransmissions télévisées de certaines courses de chevaux. La ville de Mont-de-Marsan, afin de continuer à soutenir le monde hippique sur son territoire, souhaite verser à la Société des courses, au titre de l'exercice 2023, une subvention dont le montant sera égal à celui que l'État lui verse et qui correspond à une part des enjeux des courses. Le montant a été fixé à 50 000 euros et sera ajusté en fonction de la somme versée par l'État. Il nous est demandé d'approuver les termes de la convention jointe à la présente délibération.
Merci Marie-Christine. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Pas de questions particulières. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Donc c'est voté à l'unanimité. La délibération suivante, je vais passer la parole à Claudie Breck. Il s'agit des aides qu'on attribue pour les élèves de l'IDEM. Claudie.
Oui, merci Monsieur le maire. Alors en premier, je tenais à vous informer du changement de gouvernance de l'IDEM. Fin juin, la présidente, Madame Kéan, a été remplacée par Madame Marie-Josée Doumenjou et Madame Vétès en tant que présidente adjointe. À terme, d'ailleurs, elles veulent changer les statuts pour être toutes les deux coprésidentes. Le poste du directeur de l'école a été supprimé et a été créé un poste de référent pédagogique qui est tenu actuellement par Julien Cloupe. Voilà. Quant à la délibération, c'est toujours la même chaque année. Pour 2023-24, nous vous demandons d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Mont-de-Marsan et l'IDEM et le versement de 50 euros à chaque élève montois de l'IDEM. Tout ceci permettant bien sûr de développer l'enseignement musical sur le territoire communautaire. Merci.
Merci Claudie. Est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision ? Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Donc c'est voté à l'unanimité. On parle de l'île Ololom avec une servitude de passage. C'est Hervé.
Merci Monsieur le maire.
Donc, dans le cadre des travaux de l'îlot Lolom, donc cette création d'une coulée verte au sud de la ville, le syndicat d'équipement des communes des Landes, le SIDEC, doit procéder à des travaux d'ordre électrique pour la mise en place d'un éclairage public sur des parcelles dont la ville est propriétaire. Il convient de signer une convention entre la ville et le SIDEC qui établira donc les conditions d'une servitude. Il nous est donc proposé d'autoriser M. le maire à signer cette convention.
Décidément. Alors, sur cette délibération, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des demandes de précision ? Pas de demande de précision. Qui est-ce qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci, c'est voté à l'unanimité. Gilles Chauvin, pour nous parler de stationnement.
Merci, monsieur le maire. Comme tous les ans, nous avons à approuver une convention avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, qu'on appelle l'ANTAIE. Ou hanté. Vous savez que lorsqu'une contravention n'est pas payée, eh ben nous passons par cet organisme pour pouvoir justement avoir le paiement de ces contraventions, des forfaits post-stationnement au-delà de 48 heures. Vous avez en annexe la convention que nous vous proposons d'approuver avec les tarifs de prestation que nous devons régler pour l'entaille qui se met à notre place pour encaisser les paiements.
Merci. Gilles, avez-vous des questions ? Pas de questions. Y a-t-il des voix contre, des abstentions ? Donc c'est voté à l'unanimité. La délibération numéro 8 ensuite, c'est la délibération que Hicham Lamsika va nous présenter sur les droits de place des marchés. Hicham.
Pardon. Merci, monsieur le maire. Juste avant de présenter la délibération, je voudrais juste apporter une petite réponse à madame Piau. Je lui souhaite un très bon séjour à Montpellier. J'espère qu'elle nous reviendra en forme. D'accord, ok, monsieur. Et surtout, il me tarde de débattre avec elle de numéros sur des fenêtres, de sourires d'enfants qui voient le Père Noël au balcon de la mairie. Monsieur le maire, au vu de l'avis de la commission extra-municipale des marchés de la ville en date du 7 novembre, au vu de la commission RH, Finances, Affaires Générales en date du 29 novembre, il nous appartient de fixer les tarifs pour l'exercice 2024 des marchés. Nous proposons une augmentation du mètre linéaire de 3,5%, ce qui représente environ 0,5 centimes du mètre pour nos commerçants non sédentaires de la ville. Avant de passer au vote, monsieur le maire, je tiens vivement à exprimer ma gratitude à madame César, Monsieur Lamont, Monsieur Michel et Monsieur Dusclos, avec qui nous avons collaboré étroitement. Ensemble, nous avons œuvré pour amener les commerçants non sédentaires en centre-ville sur le mois de juillet. Par le passé, nous avions délocalisé environ 9 marchés à Barbe d'Or, voire plus suivant les dates entre le Flamenco et la Madeleine. Pour l'année 2024, nous ne délocaliserons plus que 3 marchés à Barbe d'Or et parmi ceux-ci, seulement un samedi. Mes collègues, Madame Leblanc et Monsieur Chauvin, ont eu le plaisir de rencontrer les commerçants du centre-ville qui ont accueilli cette nouvelle avec grande joie. En compagnie de Monsieur le maire, nous avons également eu l'occasion de rencontrer les commerçants du marché Saint-Roch. Nous avons eu des échanges fructueux sur la vie du marché et en avons profité pour proposer à l'ensemble des commerçants d'investir la place de la mairie et l'avenue Aristide Briand le samedi 13 juillet en parallèle de la foire d'été. Merci, monsieur le maire. Nous pouvons passer au vote pour l'augmentation du tarif des marchés.
J'ai pas entendu. Alors, je vais compléter. Le micro, monsieur Bachet.
Non, c'est allez, bon, allez. J'ai entendu. Merci, monsieur Bachet.
Arrêtez de me taquiner, Hicham. Et c'est aussi parce que on travaille bien avec le festival de flamenco. On était avec Nathalie Garcia ce matin pour la conférence de presse, c'est ça, pour présenter les lieux, nouveaux lieux. Je ne sais pas si tu viens de dire un mot, mais en tout cas, la délocalisation et le changement un peu de programmation nous permet de libérer quelques dates. Je ne sais pas si tu veux dire un mot.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc nous étions ce matin justement à la conférence de presse où Monsieur Nedelski a présenté un nouveau format. Ce format étant 4 spectacles au pôle culturel avec des mises à disposition de navettes et le format ici au théâtre Le Molière. Excusez-moi. Voilà. De plus, il y aura également au niveau du Midou, des spectacles gratuits, ainsi que Place Générale de Gaulle. Et donc, ce qui libérera le marché Saint-Roch pour du stationnement, donc pour des gens qui pourront ensuite prendre des navettes entre Saint-Pierre-du-Mont et ici.
Pardon. Ça marche. Tu peux boire un coup. Sur cette délibération, y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est pour Gilles Chauvin. On parle de la Satel.
Merci, Monsieur le maire. Comme tous les ans, nous avons à examiner et à éventuellement approuver le rapport d'activité de la Satel, qui est la Société d'aménagement du territoire et de l'équipement des Landes. Vous avez en annexe tout le rapport d'activité de la Satel, juste pour vous rappeler que c'est une société qui a été créée en 62, qui compte 18 personnes embauchées en CDI. Le capital s'élève à 2 500 000 et nous, la ville de Mont-de-Marsan, nous avons 2,27% du capital de la Satel. Donc nous sommes donc actionnaires de cette société avec qui nous travaillons d'ailleurs extrêmement régulièrement et de façon extrêmement positive. Les principales activités en 2022, c'est les activités d'aménagement, Atlantique Sud, Abyscaros, Sudland à Astinghe, lotissement à la Puyade à Perrora, des activités de construction également, des réhabilitations, des constructions de bâtiments. Donc c'est une société vraiment qui fait un bon travail sur les Landes, avec qui nous sommes extrêmement satisfaits de travailler. Et donc en tant qu'actionnaire, nous vous demandons d'approuver ce rapport d'activité de la Satel.
Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y, monsieur Dutin. Pardon.
Oui, il est évident que nous approuverons. Je tenais simplement à indiquer que la Satel, au sein de laquelle nous sommes donc la ville, mais partenaire avec le département, qui, et vous le savez, est une autre de mes casquettes, et je voulais effectivement attirer votre attention sur un point qui me paraît être essentiel, c'est ce qu'a indiqué effectivement Monsieur Chauvin, mais également les résultats qui sont dégagés effectivement par la Satel, puisque, et d'ailleurs c'est repris dans votre délibération, mais je pense qu'il faut y mettre l'accent, le résultat net comptable est positif à hauteur de 224 000 euros et il l'était déjà à hauteur de 234 000 ou 235 000 euros en 2021.
Merci de cette précision. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Une délibération qui suit également sur la Satel, Gilles ?
Merci, Monsieur le maire. Une prise de participation de la SAS Vitaland dans la SAS Vita Industrie Norton, pour vous expliquer un petit peu, la Satel va s'associer avec la SAS Vitaland pour acheter un terrain qui permettra à la société Technique Aéro, qui est une belle entreprise qui est dans le sud des Landes et dans le Pays Basque, qui fait la conception et la fabrication de pièces aéronautiques. Le capital sera composé de 51% pour la SCA Vitaland, qui est une société qui dépend de la Satel, 39% de la Caisse des dépôts et 10% par la société SAS Technique Aéro. Je pense que c'est une belle chose, parce que ça va permettre à cette société de se développer, en particulier de se développer dans le sud des Landes, et donc d'apporter de l'emploi supplémentaire. Donc c'est vraiment une façon de fonctionner de la Satel et de ses sociétés qui est très intéressante pour l'emploi et pour les entreprises landaises.
Oui, merci. Quasiment. Gilles.
Quasiment.
Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? C'est donc voté à l'unanimité et la délibération suivante, c'est pour Hervé Bayard. Il s'agit d'une convention de servitude.
Merci, monsieur le maire. Dans cette délibération, qui est une délibération qui a trait aux travaux de l'avenue de Sambre, il est proposé donc de passer une convention avec le SIDEC, qui a mandaté la société SDEL pour effectuer des travaux d'enfouissement de réseau, et notamment l'installation d'équipements qui sont liés à ces enfouissements. Donc une délibération que nous avons l'habitude d'adopter en conseil municipal.
Merci Hervé. Y a-t-il des questions, des voix contre, des abstentions? C'est voté à l'unanimité. Délibération suivante. C'est pour Nathalie Gasse. Il s'agit de la dénomination. Alors, enfin, Nathalie ou Hervé, mais il y a une connotation un peu associative dans l'histoire. Donc c'est Nathalie qui va s'y coller.
Merci, monsieur le maire. Donc il s'agit d'une délibération sur la dénomination d'une voie nouvelle au niveau de la route du Hoga pour un projet de logement Next City. Donc, on vous propose, suite à cet aménagement urbain, de nommer cette voie du nom de Hélène Poli, qui est décédée le 5 mai 2021. Donc, c'est une femme très connue sur Mont-de-Marsan. Elle était enseignante à la retraite et elle a été responsable de l'Amicale laïque montoise. Et ensuite, c'est elle qui a fondé le comité montois de l'UNICEF en 1994 avant de devenir présidente du comité UNICEF des Landes. Pour avoir contacté l'ancienne présidente du comité de Mont-de-Marsan, Madame Coderan, elle est très heureuse et toutes les personnes du comité de Mont-de-Marsan sont très heureux que l'on propose ce nom, parce que c'est quelqu'un qui à leurs yeux et qui à nos yeux également le mérite du fait qu'elle a toujours été très proche des enfants de par sa profession et ensuite de par son investissement complet au sein de l'UNICEF. C'est pour ça que je vous invite à adopter cette dénomination pour cette voie que vous avez en annexe.
Merci Nathalie. Est-ce que vous avez des questions, des remarques particulières? Donc c'est bien qu'on puisse avancer. Ça fait écho aussi à ce qu'on avait fait avec Odile Duluc, regretté Odile Duluc récemment. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante, Christophe Ourcade, on parle des effectifs.
Merci, monsieur le maire. Le tableau des effectifs évolue tout au long de l'année et la présente délibération nous permet d'acter les prochains mouvements de personnel, qu'il s'agisse d'évolution ou de création d'emplois, qui interviendront jusqu'en février 2024. En termes d'évolution d'emploi, nous allons valider 3 modifications. L'un au SELF, l'autre au pôle technique et un troisième au service des sports. Et enfin, en termes de création d'emplois, 2 mouvements à temps complet, l'un qui concerne le service des cimetières et l'autre le musée.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des interventions? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Délibérations suivantes, les délibérations qu'on a déjà vues d'ailleurs par ailleurs sur les réajustements des indemnisations des frais de déplacement, gens et élus.
Alors, un arrêté du 20 septembre 2023 est venu modifier le montant des indemnités en revalorisant le prix des repas ainsi que celui des hébergements pour les agents et élus lorsqu'ils sont en déplacement. Il vous est donc proposé, à compter du 1er janvier 2024, d'appliquer le principe du remboursement au réel dans la limite de 20 euros pour les frais de repas et de 90 à 140 euros pour les hébergements en fonction des lieux de mission.
Merci. Est-ce que vous avez des remarques? Allez-y, monsieur Bachet.
Non, mais on a débattu de cette question. 140 euros quand vous allez à Paris, des fois les hôtels, c'est un peu compliqué à 140 euros.
Je confirme.
Hein? Je confirme. Monsieur Bayard, vous qui êtes un spécialiste du voyage parisien. Non, c'est pas ça, je me trompe. Mince.
Est-ce que...
Oui, ça se trouve. Ça se trouve. Par exemple,
un événement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. À Bordeaux, il y avait des chambres à 350 balles alors qu'elles sont 90 euros.
Les Jeux Olympiques aussi, alors. Il n'y aura pas à Paris pour les Jeux Olympiques, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques éclairées ? Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Allez, je vous remercie. La délibération suivante, Christophe, les décisions modificatives sur le budget principal.
Alors, cette décision modificative a pour but de mettre à jour, entre la date du vote du budget primitif et aujourd'hui, les quelques modifications budgétaires qui apparaissent aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Avec en particulier la revalorisation du chapitre 012, c'est-à-dire les charges de personnel, pour 176 035 euros. Cette augmentation s'explique à hauteur de 84 000 euros par des décalages de recrutement, mais aussi toutes les revalorisations qui ont impacté 2023, qu'il s'agisse de la revalorisation du point d'indice, de la refonte des grilles B et C, ou de la revalorisation des IFSE. Mais également l'augmentation du coût des mises à disposition ainsi que l'augmentation des saisonniers pour un total de quasiment 82 000 euros. Les dépenses de fonctionnement s'ajustent également sur le chapitre 011, les charges à caractère général, avec deux diminutions notables. L'une sur le poste des transports de biens, qui concerne justement le transfert des œuvres du musée, et l'autre, le poste télécommunication. Cela représente une diminution de 76 000 euros. Il y a un petit bug dans le tableau. C'est pas 42, mais 46 000 euros en moins des frais de télécommunication, ce qui nous fait un total de 76 000 euros d'économie. Enfin, il nous faut ajuster le poste des contributions avec, d'une part, la baisse de la subvention d'équilibre de la régie des fêtes de l'ordre de 120 000 euros et l'augmentation de la subvention d'équilibre qui sera versée au CCAS et que nous verrons un peu plus tard, de 111 000 euros. Comme on l'avait déjà évoqué lors du précédent conseil, les bons résultats de la Madeleine 2023 nous ont permis de réduire donc cette subvention d'équilibre pour arriver au final à 577 000 euros. Quant à la subvention du CCAS, le CCAS a dû faire face à des augmentations de salaire, des augmentations de fluide, et aussi à une augmentation de la subvention d'équilibre qui est versée au foyer des jeunes travailleurs, à hauteur de quasiment 22 000 euros. Les recettes de fonctionnement viennent équilibrer la section en ajustant les indemnités d'IJ que nous avons perçues à hauteur de 91 000, 35 euros. En termes d'investissement, il s'agit d'écritures d'ordre qui concernent principalement la participation de la commune à la rénovation de l'éclairage public au travers de la convention avec le SIDEC et de la constatation de la fin des travaux de la piste du Harbeau.
Est-ce que vous voulez interagir sur ce qui vous a été présenté ? Allez-y, monsieur Bachet.
Oui, enfin, notre groupe, effectivement, n'avait pas voté le budget. Dans la mesure, effectivement, il s'agit d'une décision modificative qui concerne le budget principal. En cohérence, nous voterons contre.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Monsieur Mathieu Hara.
Oui, même chose. On s'était abstenu sur le budget, donc on s'abstiendra. Juste rappeler, sur les chiffres de la Madeleine, il n'y a pas des bons résultats cette année. Et 570 000 euros, c'est une subvention extrêmement élevée, il n'y en a jamais eu d'autant élevée que la subvention d'équilibre. La moyenne des années précédentes, c'était 350 000 euros. Donc on ne peut pas dire que c'est des bons résultats. C'est 220 000 euros de plus que d'habitude.
Très bien. Y avait-il M. Piarina ? Merci. À parler un peu plus fort, ou c'est moi qui ai...
Je vous ai quand même précisé lors de la commission des finances, quand même. Soyez pas malhonnête. Lors de la commission des finances, j'ai commencé par ça. Ah, vous avez parlé des chiffres de la régie des fêtes.
Bon, monsieur Pierrine, faites-moi un courrier avec tout ce que vous voulez. Non, mais faites-moi un courrier. Je veux tel truc, tel chiffre sur les. Vous faites un courrier. Ouais, faites-moi ou un mail ou un pigeon voyageur, ce que vous voulez, mais faites. Ouais. Ou des signaux de fumée. Tout ce que vous voulez. Ouais. Non, mais moi je vous parle administratif. Mais moi je suis pas. Vous me faites un courrier en me disant je veux tel chiffre, tel truc. Vous les aurez. Oui. Vous pouvez. Ok. Merci de. Cette belle intervention. Est-ce qu'il y a d'autres... Allez-y.
Mais, monsieur Arad, il faut supprimer les fêtes de la Madeleine.
Mais ne soyez pas démagogue, enfin. Vous trouvez normal que... Non, mais de suite. Je constate...
Avec vous, on aurait eu tous les adjectifs, démagogue,
idéologue.
C'est infernal.
Ça, je ne l'ai pas dit. Démagogue, c'est moi, je l'assume. Ben ouais. Voilà, dire que ça coûte 200 000 euros de plus que d'habitude, ce n'est pas démagogue, c'était un fait. Vous voyez ? Merci.
Allez, on y va.
Monsieur Arra, vous dénoncez. On nous avait dit à nous...
Et vous soutenez, vous soutenez, on a compris.
Quand vous étiez dans la majorité, monsieur... Maintenant, on ne sait plus où vous êtes, mais quand vous étiez dans la majorité...
Moi, je vote comme je dis, monsieur Dutin, pas comme vous.
Mais laissez-moi finir. Quand vous étiez dans la majorité, et au début, effectivement, de ce mandat, on nous avait dit à l'opposition, mais surtout l'opposition, arrêtez de dénoncer, ne critiquez pas et proposez. Bah, écoutez, vous voyez que quand on se trouve dans l'opposition, puisque manifestement, c'est votre posture aujourd'hui...
Et vous,
Vous critiquez, mais proposez alors. Mais et peut-être que nous aurons des propositions communes.
Oh là, ça je pense pas, parce que vous avez choisi votre camp, manifestement.
Si je pouvais juste me permettre de reprendre un peu le fil de... Monsieur Pierrine, c'était pas irrespectueux ce que je vous ai dit, donc... Non, pas du tout. Honnêtement, faites-moi une... Demandez-moi ce que vous voulez par écrit, on vous le trouvera. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Y a-t-il des voix contre ? Oui, alors on y va, là. On y va. Je sais. 6, on est bon ? 9, 7. Monsieur Pierrine également. Donc ça fait 7. Y a-t-il des abstentions ? Donc il y a Monsieur Arra, Madame Dariussec, Madame Darteron. Alors attendez, Monsieur Arra, il a une procuration. Donc de Madame Gazot, je crois. Il y a Madame Darteron et Geneviève Dariussec qui s'abstiennent. Et Pierre Merlet-Bonan qui a donné procuration à Éliane Darteron. Allez, levez un petit peu. Allez, levez bien haut. Non, mais je vois monsieur Roupia qui lève le doigt comme ça. Il a deux doigts. Allez, on y va. Sérieux, on va aider nos services. Chut, s'il vous plaît, on va les aider. C'est bon ? Le compte est bon ? 6.
Écoutez, monsieur Bachet, moi qui suis très bien depuis le début, je peux vous dire que madame Darteron a la procuration de madame Gazot et que Pierre Merlet-Bonan a donné procuration à, monsieur Roufia. Il n'a pas de procuration.
Chut. Allez, c'est prêt. Allez, vous avez le compte, c'est bon. Sur la délibération, s'il vous plaît. Sur la délibération suivante, donc c'est la 16, et on parle du self-bosquet. Christophe Fourcade.
Alors, il nous est nécessaire d'ajuster le budget annexe du self-bosquet, principalement à cause du renchérissement du coût des denrées depuis le début de l'année, en revalorisant de 8 000 euros le poste achat de matière. En contrepartie, Cette augmentation est compensée en recettes par une diminution de la refacturation de la mise à disposition. Alors, on sait que l'équilibre du self est précaire depuis plusieurs années, mais conscient de l'intérêt qu'il représente pour l'ensemble des personnels travaillant sur le site du Bosquet, les principaux participants, en particulier le centre de gestion 40 et l'ALPI, ont consenti à prendre en charge une partie des coûts supplémentaires. Et donc, pour l'instant, on ajuste simplement le budget annexe de 8 000 euros.
Merci Christophe. Des remarques sur ce point ? Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération suivante. Pardon, monsieur Pierrine. Je ne vous ai pas vu. Je vous écoute.
Non, il a voté contre.
Vous avez... Alors, on refait. Y a-t-il des voix contre, pardon, monsieur Pierrine, c'est ça ?
Ah bon, voilà.
Y a-t-il des abstentions ? Donc, une. Je vous remercie. Ensuite, la délibération suivante. Vas-y, Christophe.
Alors, on pourrait peut-être regrouper les deux délibérations, puisqu'il s'agit de la même chose. C'est-à-dire qu'au travers de ces deux délibérations, on nous demande d'approuver la contractualisation de deux prêts de 2 millions d'euros nécessaires au financement des investissements prévus au budget primitif, qui, pour rappel, s'élevait au total à 8 700 000 euros, dont 3 millions de restes à réaliser. Ces prêts sont contractualisés, mais non encore mobilisés. Ils le seront sûrement en 2024 au fil des besoins. Par ailleurs, et compte tenu du parcours professionnel de M. le maire, ce dernier ne souhaite pas intervenir directement dans la contractualisation de tout contrat avec le groupe BPCE. Il revient donc à l'Assemblée d'approuver l'offre de financement et les conditions proposées et de me désigner pour signer ces contrats.
Allez-y.
2 × 2.
Donc, effectivement, on a donc deux prêts pour un total de 4 millions. Est-ce que, d'ores et déjà, il y a un fléchage particulier par rapport à certains investissements ou pas ? Voilà.
Non, il s'agit de l'enveloppe globale des 8,7 millions. Et donc, c'était au fil des besoins que l'on débloquera les emprunts. Donc, il n'y a pas de fléchage particulier. C'est pour l'ensemble des investissements 2023. Oui.
Il y a parfois, si tu permets, il y a parfois, sur certains dossiers, des prêts spécifiques, quand notamment ils sont estampillés développement durable ou quand il y a des enveloppes spécifiques. Là, c'est plutôt des prêts globaux sur l'ensemble de ce qui a été voté. Monsieur Bachet.
Si j'ai bonne mémoire, on n'a pas abordé ça à la commission des finances. On n'en a pas du tout.
Parce qu'on ne les avait pas.
D'accord. Alors, ma question est, c'est combien nous avons fait d'emprunt en 2023, parce que là, vous nous dites on fait un emprunt pour 2024.
Oui.
C'est ce que vous nous dites.
Oui.
Si. On fait un emprunt, mais c'est ce qui a été présenté. On nous dit on va débloquer l'emprunt, mais on ne l'utilisera qu'en 2024.
Non. Je vous dis, on le contractualise. Voilà. On le contractualise et on le mobilisera qu'en 2024 au fil des besoins.
Si on en a besoin.
Voilà. Si on en a besoin, d'accord. Donc, est-ce que, comme on ne l'a pas abordé, la commission des finances est arrivée après, d'accord, acte, mais je n'ai pas de souci. Dites-nous un peu combien on a débloqué d'emprunt à l'heure où on se parle. Voilà.
Le tirage est d'emprunt.
On
essaye de vous trouver ce chiffre tranquillement. Donc la question, c'est combien nous avons mobilisé d'emprunt sur l'exercice 2023 de droit de tirage, voilà, si on peut avoir l'info là. Donc moi, ne participant pas au vote...
Je crois qu'on a débloqué que les 3 millions. On a débloqué que les 3 millions de report de l'année qui étaient au report début d'exercice. Pour l'instant, ce sont les seuls emprunts que l'on a débloqués.
D'accord.
Et soutirés.
Et est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport aux travaux qui étaient envisagés, combien ont été réellement à peu près réalisés aujourd'hui ? Parce que si on ne débloque pas, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas fait de travaux. Mm-hmm. Si on débloque tout, c'est parce qu'on a fait beaucoup de travaux. Donc voilà, qu'on ait tout ça.
C'est-à-dire les 2% de ces 3 millions qui ont servi au financement des travaux qui étaient prévus.
Voilà.
J'ai pas les chiffres.
Ouais. Non, mais bon.
On s'engage.
Prochain conseil, prochaine commission des finances. C'est normal.
Le droit de tirage sur 2023, il a dit 3 millions, mais on le précise. Et comment on finance les travaux?
Qu'est-ce qui a été fait dessus?
Ok. Allez-y, Geneviève. On n'a pas forcément les tombées d'emprunt là. Ce qu'on essaye, c'est de ne pas emprunter plus que ce qu'on rembourse chaque année.
On a emprunté moins que ce qui était prévu, puisqu'on avait prévu 8,7 millions. Aujourd'hui, on a débloqué 3 millions, plus contractualisé 4 millions. Et une partie des investissements a été autofinancée. On n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu ou ce qu'on avait budgété sur 2023.
Donc, en définitive, par rapport au budget qu'on a voté, on se désendette.
Oui, a priori.
Il y a eu des remboursements d'emprunt, là, c'est pas l'année 2023.
Il y a eu des échéances, oui. Mais non, là, quel emprunt est tombé, définitivement, ça, je ne l'ai pas.
Je n'étais pas le seul à avoir mal compris.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Y a-t-il des... Alors, sur la première délibération, il y en a deux.
Les deux sont identiques.
Les deux sont identiques, donc...
Deux près.
La délibération qui était la numéro 17, c'est ça?
Oui.
Moi, je ne participe pas au vote. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Allez-y.
Monsieur le maire, moi, je ne vais pas rouvrir le débat, mais... obligé de s'abstenir parce qu'on n'a quand même pas suffisamment d'informations éclairantes. C'est quand même assez extraordinaire que sur ces deux délibérations, vous nous demandez de délibérer sur 4 millions, on n'ait pas des réponses qui nous soient apportées de manière claire, précise, par votre adjoint aux finances, qui puisse nous dire effectivement les 3 millions de 2023, ça a servi à ça, on est désendetté à hauteur de temps, enfin. Bon, donc c'est vrai qu'il fait froid et qu'on a tous envie d'en finir, mais voilà, je trouve que c'est pas sérieux. Je vous le dis comme je le pense. On parle de 3 millions, 4 millions, on ne sait pas.
7 millions,
on ne sait pas ce que ça a permis de financer, on ne sait pas ce que ça a désendetté. Enfin, mais qui s'occupe de quoi? Donc bon, nous on s'abstiendra, donc du coup.
Les emprunts sont aussi contractualisés pour bénéficier des taux qui risque d'augmenter encore en 2024.
Combien on les a eu, les taux?
Voilà. 4,07 et 4,06.
Vous êtes mal débrouillé?
Certainement.
Ah, mais je vous le dis. Parce que cet après-midi, la commission des finances de la région et les prêts, on les a eu à un peu plus de 3%.
Sur quel quantité?
Là, aujourd'hui, là, je vous parle.
Vous n'avez pas comparé la région?
Si vous achetez une palette de foie gras, c'est plus... C'est ma meilleure prix que si vous achetez un foie gras.
Non.
Très bien.
Non, ça dépend de...
S'il vous plaît.
Ça dépend de la somme et de la durée.
On a des spécialistes. On a des spécialistes. Oui. Venez au secours. Venez vite au secours d'Alain Bachet.
Indépendamment de cet aspect-là, il y a quand même un vide intrasidéral. Voilà. Alors,
Très bien, on passe au vote. Et, on... c'est pareil, on est en mesure de vous dire, alors pas là, il faut, on est en mesure d'avoir tous les chiffres, savoir exactement combien on rembourse par an, etc. Enfin, tout ça, on l'a. Est-ce que vous avez des voix contre ? Alors, des voix contre, s'il vous plaît. Excusez-moi. Des voix contre ? Des abstentions ? Donc, abstention 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon ? Je vous remercie. On a voté sur la première. Donc, il faut voter la deuxième. Sur la deuxième délibération qui vous a été présentée par M. Rocade, c'est-à-dire la 18, y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Sur la deuxième, des abstentions. 6. Et voilà. Donc, c'est bon. La délibération suivante, Christophe, il s'agit des autorisations à hauteur de 25% pour pouvoir fonctionner avant vote de budget.
Dans l'attente du vote de budget primitif 2024 et considérant que les restes à les réaliser pour l'année 2023 sur certains chapitres budgétaires d'investissement pourraient être insuffisants, une autorisation d'engagement et de mandatement sur 2024 est proposée pour le lancement de certains travaux à hauteur de 25% des crédits ouverts au budget 2023 et répartis selon le détail suivant. Sur le budget principal, 2 677 936,25 €. Sur le budget annexe CREMA, 58 626,50 €. Sur le budget PFM, 58 250,50 €. Sur le budget annexe parc et stationnement, 2 500 €. Et sur le budget chauffage urbain et géothermie, 516 626 €.
Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Là, c'est la 19, c'est ça ? Donc on fait allez-y.
Mais le conseil n'est pas fini. On s'abstient sur les deux. Parce que ça a conjoint un travail à la Caisse d'épargne, enfin à la banque. Participant au vote.
Alors, non, il n'y a pas de mal. On considère que c'est le même vote que tout à l'heure, mais avec deux personnes qui ne participent pas au vote. D'accord ? Ok. Sur la délibération du quart d'avance, là, sur les budgets. Alors, je fais budget par budget ou pas ? Je ne sais plus. Je vote budget par budget, non, pour la totalité. Donc sur cette délibération 19, est-ce que vous autorisez à ce qu'on fonctionne avec un quart des crédits ? Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Donc c'est OK. On parle des révisions d'attribution de compensation, c'est-à-dire l'actualisation des frais de mutualisation avec l'agglo.
Alors Christophe, les attributions de compensation sont les reversements de la commune de Mont-de-Marsan envers l'agglomération. Et cela concerne les coûts des services mutualisés, à savoir le cabinet, les finances, les RH, l'informatique, la communication, la commande publique et la DAJ, et la direction générale des services, ainsi que l'accueil et le VAC-mestre, selon des clés de répartition qui ont été décidées en 2015. Comme vous avez pu le lire dans la note très claire qui était jointe à la présente délibération, les attributions de compensation doivent être recalculées chaque année pour apprécier le coût des services mutualisés. Ainsi, la revalorisation proposée pour 2024, calculée en fonction des données de 2023, augmentera de 219 000 euros en 2024. À noter qu'une partie des services mutualités est également refacturée au CCAS et au CIS. Ainsi, compte tenu des éléments, la part de reversement de la commune envers l'agglomération augmentera en 2024 de 106 291.
Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Donc ça, c'était la délibération numéro 20. Et il y a la 21 que je passe la parole à Marie-Christine Arambat sur le CCAS.
Merci, Monsieur le maire. Donc, comme Christophe Ourcade l'a évoqué tout à l'heure, il s'agit dans cette délibération d'une subvention complémentaire à la subvention du CCAS qui avait été votée le 5 avril de cette année. Donc, le montant initial était de 1 606 000 euros, qui était le même montant que 2022. Et donc, il vous est demandé aujourd'hui de valider une subvention complémentaire de 111 000 euros, ce qui porte la subvention totale du CCAS à 1 717 000 euros. Alors ce complément, il est en lien avec plusieurs éléments. Donc il y a le coût salarial qui pour nous est important puisqu'on travaille avec de l'humain, donc ça représente une quantité importante. Donc il y a l'augmentation du point d'indice, il y a eu des revalorisations salariales et c'est tant mieux pour les agents. Donc avec un passage en catégorie A des éducateurs jeunes enfants et un passage en catégorie B des auxiliaires puéricultrices. Nous avons eu également un absentéisme un peu plus important dans les crèches et les clubs seniors qu'en 2022. Donc ça nous a obligés à avoir du personnel contractuel en remplacement des agents titulaires un peu plus que ce qu'on avait prévu pour assurer le fonctionnement des services. Le coût de l'électricité et des matières premières donc on avait projeté mais qui a été un petit peu plus élevé. Le coût des services mutualisés dont on vient de parler qui a été majoré de 25 000 euros par rapport à ce que l'on avait prévu sur notre budget. Et l'augmentation de la subvention du FJT, parce que en fait, les loyers du FJT n'ont pas été augmentés. C'est un choix qui a été fait pour pouvoir accueillir des jeunes qui sont en alternance et en cours de formation. Et donc, même si il y a eu des compléments de subvention versés par nos partenaires extérieurs, ça n'a pas suffi à compenser. Et donc, nous avons dû compléter et augmenter la subvention du FJT. Voilà, Monsieur le maire.
Merci, Marie-Christine. Des questions ? Des voix contre, des abstentions. Je vous remercie. La délibération suivante, on est sur le centre. Délibération suivante, pardon.
C'est toujours pour le CCAS, c'est l'autorisation de pouvoir utiliser en avance le budget, la subvention de 2024 à hauteur de 25%, donc 440 000 euros, pour qu'on puisse fonctionner jusqu'au vote du budget 2024.
Question, voix contre, abstention, je vous remercie. On a épuisé l'ordre du jour. Est-ce que vous aviez une autre intervention ? Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite, on ne se revoit pas avant. Allez-y.
C'est en lisant la PQR ce matin concernant... Alors, vous n'allez pas nous donner une réponse ce soir. Je pense que ça serait bien que nous prépariez quelque chose par rapport à tout ce qui se passe sur les questions de santé, sur l'agglomération. Et j'ai été interpellé, mais comme certainement toutes et tous, ce matin, sur l'inquiétude à la clinique des Landes. Ça serait bien que vous puissiez nous donner, à minima, peut-être des éléments. C'est jeudi prochain qu'on a conseil communautaire. Donc ça vous laisse le temps de nous préparer une bonne réponse. Comme j'ai vu que vous alliez... rencontrer des professionnels et tout ça, donc ouais. D'ici là peut-être vous aurez rencontré, donc vous aurez
peut-être,
comme vous êtes président du conseil d'administration de...
Je pense que monsieur Lamassi se fout de la question de
s'il vous plaît, il m'a prévenu qu'il avait une petite obligation. s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez, ça s'est bien passé jusqu'à présent. S'il vous plaît. Allez, monsieur le psychiatre, monsieur Dutin. S'il vous plaît, monsieur Dutin. Allez, juste. Je peux, sur le fond.
Donc, la situation est absolument dramatique.
J'essaye de répondre. Alors attendez.
Ça dépend de qui, de quel point de vue on se place.
Écoutez.
Oui.
Moi, je me passe d'aucun.
Mais je veux dire que c'est toujours unilatéral. C'est-à-dire que c'est toujours unilatéral. De manière ostensible, on dit à Céline Piau, je m'en fous. Alain Bachet pose une question et de manière ostensible, on se lève en disant Bachet pose encore une question, il y en a marre. Donc,
je ne prends position ni pour vous, ni pour Hicham Lamsika. Je vous dis que cette situation est indécente.
Allez, on va essayer de venir sur le fond. Monsieur Dutin, s'il vous plaît, et je m'adresse aussi à Hicham et à tout le monde, on essaye de parler de la question. Alors, je ne vais pas vous répondre là comme ça. Oui, en effet. Alors d'abord, c'est pas un sujet qui date de l'article de journal d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Moi, je suis amené à rencontrer très rapidement, pas plus tard que demain d'ailleurs, certains des acteurs qui ont pu s'exprimer là, que nous avons ensuite vraisemblablement à l'initiative de l'hôpital et donc de, du directeur et du président du conseil de surveillance, une rencontre aussi où on se met autour d'une table avec un certain nombre d'intervenants, d'acteurs institutionnels et autres, semaine prochaine, d'accord ? Et on verra après. Je ne vais pas rentrer dans un débat de fond. Vous savez très bien qu'il y a quelque temps, une intervention a permis, par le biais de l'ARS et de l'hôpital, de pouvoir préserver aussi une activité à laquelle on est tous attachés sur la clinique des Landes, en l'intégrant. Il y a aussi des réorganisations qui se font. Vous savez qu'il y a un plateau technique qui est en train de se construire. Voilà. Donc il y a des discussions qui se font pour essayer d'harmoniser tout ça et faire en sorte que l'offre de santé soit préservée au maximum. Voilà, pour le bien des... Je ne sais pas si Gilles, tu veux, ou Geneviève, vous voulez intervenir ?
Oui. Bon, en fait, il y a 3 ans, la clinique était en grosse difficulté. Il y a eu création de ce qui s'appelle un GCS, qui est un support juridique entre l'hôpital et la clinique. Et ce GCS a un fonctionnement aujourd'hui. Mais nous arrivons dans une phase où il y a effectivement, comme le disait Monsieur le maire, ces travaux, ces grands travaux au niveau des blocs de l'hôpital, qui était un plateau technique très important, qui sera mis à disposition des praticiens libéraux de la clinique. Il y a un projet médical qui est en train de s'écrire avec ce qui va rester au niveau de la clinique. Et en définitive, bon, voilà, il y a des échanges entre les praticiens libéraux et l'hôpital pour conserver toute l'activité et l'offre de soins sur le territoire. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est important pour le territoire, c'est que cette offre de soins, elle perdure sur le territoire. Parce que je rappelle quand même que la zone de je ne vais pas dire de chalandise, c'est pas le bon mot, des services d'accueil, des services de santé, quels qu'ils soient, privés et publics, de Mont-de-Marsan, c'est une grande moitié des Landes, c'est une partie du Gers, c'est une partie de Lot-et-Garonne. Donc on a vraiment besoin de conserver une entité avec des spécialistes avec une complémentarité entre l'hôpital et la clinique. Donc je pense que l'hôpital a... Et c'est le directeur de l'hôpital qui est à la tête, qui gère ce GCS aujourd'hui, qui est en difficulté, en difficulté pour des raisons économiques. Bon, on va travailler sur ce sujet pour assainir un petit peu les choses. Et c'est vrai que il y a aussi une inquiétude des médecins de la clinique parce que le projet médical n'est pas encore complètement net et écrit pour l'avenir. Et donc, ce que j'ai proposé avec... bien sûr, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'hôpital, de surveillance, pardon, c'est de faire une réunion avec tous les acteurs jeudi prochain, afin que justement tout le monde ait le même niveau d'information et qu'on puisse avancer positivement dans ce domaine-là et faire tomber les inquiétudes. Donc voilà, donc en fait, je crois qu'on a tous collectivement, et je pense que personne ici sera contre le fait qu'il faut qu'on travaille vraiment ensemble pour vraiment assurer cette offre de soins sur le territoire. Et pas qu'il y ait des fuites de médecins. Certains partiront peut-être, j'espère que nous serons dans un projet médical qui satisfasse tout le monde, qui satisfera tout le monde.
Oui, pour compléter les propos de Geneviève, c'est un souci qu'on a quand même, parce que depuis 3 ans, comme l'a dit Mme Dariussec, il n'y a plus de clinique des Landes. Il faut dire les mots. Elle n'existe plus, il n'y a plus de clinique des Landes. Puisque la clinique des Landes était en faillite il y a 3 ans, c'est la création d'un groupement de coopération sanitaire où l'hôpital a investi plus de 20 millions d'euros à l'intérieur avec les aides de l'ARS pour créer un groupement de coopération sanitaire privé avec des tarifs publics. Donc c'est un peu compliqué, mais dans la corbeille de Marie à l'époque, on avait des tarifs qui étaient très intéressants pour que ce GCS puisse fonctionner. Or, l'activité n'a pas été au rendez-vous. Des dérives budgétaires probablement sur certains honoraires ont été également appliquées. On est en train de travailler sur ce dossier et de nouveaux contrats sont en cours de signature également avec les 43 médecins qui travaillent. Donc c'est un travail de longue haleine qui a été démarré il y a 1 an. le directeur de l'hôpital avec le président de le conseil de surveillance et moi-même et d'autres, et Geneviève aussi, nous sommes très au fait des problèmes. Nous allons rencontrer demain après-midi certains médecins de la clinique, de l'ex-clinique des Landes, du GCS, pour travailler avec eux, pour leur faire des propositions éventuellement, pour écouter leurs griefs également, donc pour les écouter, pour avoir un dialogue avec eux. La semaine prochaine, il y a deux ou trois réunions prévues justement avec pour ce GCS pour remettre les choses à plat. Et comme le dit Geneviève, il faut sortir par le haut dans cette histoire. Il faut que travailler avec le corps médical, bien sûr, qui est impliqué, mais aussi avec les agents non médicaux. Il y a 95 personnels qui travaillent dans ce GCS, donc il ne faut pas les oublier non plus. Et puis à terme, l'hôpital ne pourra pas être sans arrêt en train de renflouer ce GCS. Ce n'est pas possible. 6 millions déjà ont été dépensés par l'hôpital, parce que l'hôpital doit combler les dettes de ce GCS, mais jusqu'à quand, ce ne sera pas possible. L'ARS, l'année dernière, a déjà donné un petit peu d'argent, pas mal. Donc, il va falloir rééquilibrer les comptes, retravailler avec le corps médical, retravailler le projet médical. Je pense que c'est essentiel. Ce qu'a dit Geneviève, c'est ça. Il faut travailler le projet médical, savoir qui fait quoi, où et comment, et valoriser à l'heure actuelle les structures qui sont en place et les structures à venir, en particulier le nouveau bloc opératoire qui va sortir de terre d'ici un an, où il y aura de quoi, je veux dire, loger tout le monde, 6 mois ou 6 à 8 mois, de quoi loger tout le monde pour travailler de la meilleure des façons. Donc vous voyez, il y a du travail devant nous, mais l'essentiel, je crois, c'est de dire nous allons essayer de garder le maximum les médecins qui travaillent sur le territoire, c'est notre but, pour justement que la prise en charge des patients de notre territoire soit faite comme elle est faite à l'heure actuelle par des gens compétents et sérieux.
Si on vous a posé cette question, c'est que, bon, bien, les professionnels de santé, on n'est pas sans ignorer les uns et les autres que les populations sont très inquiètes de l'offre de soins qu'on a sur notre territoire. Donc, que les professionnels soient informés, etc., etc. Mais moi, je pense qu'au regard du climat qu'il y a, il faut que les populations elles se sentent rassurées, qu'elles ne disent pas demain, on n'aura pas, ou il faudra attendre 6 mois pour les soins. C'est tout ça dont il s'agit. Il y a à rassurer les professionnels, mais il y a aussi et surtout à rassurer les potentiels patients que nous sommes les uns et les autres, et y compris au-delà du département. C'est de ça dont il s'agit aussi.
On est d'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Et cette fois-ci, on lève la séance pour de bon en remerciant l'ensemble des services, même la DGS, et tout particulièrement le service des affaires juridiques. Bonne soirée. Bonne fête de fin d'année à tous.